VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 28 février 2020. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Incident diplomatique entre la France et le Mali. Bamako rappelle son ambassadeur à Paris et dépêche son ministre des Affaires étrangères dans la capitale française.
En Guinée, affrontement jeudi entre manifestants et forces de l'ordre. Des urnes détruites et l'armée en état d'alerte à 3 jours d'un référendum et de législatives rejetées par l'opposition.
En Guinée-Bissau, Oumaru Sissoko Embalo s'est fait investir président hier à Bissau. Son rival, Domingos Simões Pereira, continue de contester son élection.
Après l'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo, à son tour, touchée par l'invasion de criquets ravageurs. Une première depuis 1944.
Multiplication des mesures drastiques dans le monde pour combattre la propagation du nouveau coronavirus.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le Mali a décidé hier de rappeler son ambassadeur à Paris et de dépêcher son ministre des Affaires étrangères en France pour arrondir les angles après l'incident causé par le diplomate au sujet des soldats français au Mali. Des détails avec Bagassi Koura.
L'ambassadeur Toumani Gimé Diallo sera rappelé aujourd'hui à Bamako d'une source proche de la présidence malienne sans plus de précision. Quant au ministre des Affaires étrangères, Tchébilé Dramé, il devait partir hier soir pour Paris pour apaiser la situation, a dit une source proche de la présidence. L'ambassadeur du Mali avait été convoqué jeudi à Paris après avoir accusé la veille devant une commission parlementaire française des soldats de la Légion étrangère de débordement dans les quartiers chauds de Bamako. Le déplacement du ministre Tchébilé Dramé s'est décidé de manière rapide. C'est un voyage décidé aujourd'hui en réponse aux déclarations des dernières 24 heures, a dit une source proche de la présidence malienne. Cette visite intervient au lendemain de l'audition par une commission du Sénat français des ambassadeurs des pays membres du G5 Sahel.
En Guinée, des affrontements ont opposé hier des manifestants aux forces de l'ordre. Des urnes ont été détruites et l'armée est en état d'alerte à 3 jours d'un référendum et de législatives que l'opposition entend boycotter et empêcher. Les opposants à la nouvelle constitution dénoncent une manœuvre du président Alpha Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, pour briguer sa propre succession à la fin de l'année, alors que le nombre de mandats est limité à 2 par la constitution en vigueur.
Ajoutons que la CEDEAO a annulé hier une mission en Guinée des présidents du Niger, du Nigeria, du Burkina Faso et du Ghana pour y discuter avec leur homologue Alpha Condé de ce référendum constitutionnel. Elle n'enverra pas non plus d'observateurs pour ce scrutin. Selon un communiqué publié par le Niger, dont le président Mahamadou Issoufou préside actuellement l'organisation, cette mission de bonne volonté a dû être reportée compte tenu de certains engagements et contraintes liés au calendrier électoral du président de la République de Guinée. A été également évoquée l'existence de certains facteurs qui laissent supposer que la situation sur place n'est pas exempte de tout risque.
En Guinée-Bissau voisine, Oumaru Sissoko Embalo s'est fait investir président à Bissau hier. Son rival, Domingos Simões Pereira, qui conteste les résultats annoncés par la CENI, a déposé un recours à la Cour suprême qui ne s'est pas encore prononcée. Le point avec Abdourahmane Dia.
Je jure sur mon honneur de défendre la Constitution, de la respecter et de la faire respecter, a déclaré hier Oumaru Sissoko Embalo devant plusieurs centaines de personnes dans un hôtel de Bissau. Le chef de l'État sortant, José Mario Vaz, lui a passé au cou l'écharpe aux couleurs rouge, jaune et vert du pays. Les deux hommes ont ensuite procédé à une passation symbolique de pouvoir au palais présidentiel. Le président en exercice du Parlement et le corps diplomatique étaient absents de la cérémonie. Le déploiement d'un dispositif militaire important autour de l'hôtel indique que l'armée a choisi de laisser faire. Son adversaire, Domingos Simões Pereira, chef du PAIGC, et le premier ministre en exercice, Aristide Gomes, ont dénoncé une tentative de coup d'État. M. Pereira, qui dénonce des fraudes, réclame qu'on recompte les bulletins et s'en remet à la Cour suprême. M. Embalo, 47 ans, dit que la décision n'appartient pas à la Cour suprême et fait valoir que la commission électorale, sommée par la Cour suprême de vérifier les résultats, les a confirmés à plusieurs reprises.
Trois Tchadiens, membres du personnel d'un hôpital, le médecin-chef, un infirmier et leur chauffeur, kidnappés il y a 4 mois dans l'ouest du Tchad, sont apparus dans une vidéo non datée. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
La vidéo de 6 minutes a été transmise à l'AFP à Lagos. Elle montre bien, selon des responsables tchadiens, les trois otages enlevés le 30 octobre. Assis devant le drapeau de Boko Haram, les trois hommes, qui parlent manifestement sous la contrainte, appellent le président Idriss Déby Itno à œuvrer pour leur libération. C'est la première fois qu'est rendue publique une vidéo montrant des otages tchadiens de Boko Haram. Rien ne permet de la dater ni de savoir dans quel pays elle a été tournée. C'est la première fois que Boko Haram prend en otage des fonctionnaires tchadiens et aussi la première fois que le groupe enlève du personnel médical. L'insurrection de Boko Haram, qui a débuté en 2009 dans le nord-est du Nigeria, et sa répression par l'armée ont fait quelque 35 000 morts et près de 2 millions de déplacés en 10 ans, selon les Nations Unies. Depuis, le groupe a étendu son action au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin.
Après l'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo est à son tour touchée par l'invasion de criquets ravageurs. Une première depuis 1944. Les experts redoutent des conséquences calamiteuses pour des populations déjà fragiles. Le point avec Eddie Isango.
Les experts craignent une famine comparable à celle de 1944 lors de la dernière apparition de ces insectes ravageurs dans ces territoires à vocation agricole dans le nord-est de la RDC. Un petit groupe de criquets pèlerins est arrivé le 21 février sur la rive occidentale du lac Albert, près de Bunia, après avoir traversé le nord de l'Ouganda, indique l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Ces insectes ont été aperçus pour la première fois en RDC le 19 février. Dans les territoires d'Aru en Ituri. Il y a un risque qu'ils se multiplient, ils se promènent en couple et ravagent tout ce qui est vert, même les écorces et la pelouse, alerte Jean-François Kamate, inspecteur agricole dans l'Ituri. La présence des criquets inquiète jusque dans les deux provinces voisines du nord et du sud Kivu, en proie à l'insécurité alimentaire où des dizaines de milliers de déplacés fuient les violences des groupes armés. Les criquets pèlerins ont déjà frappé 9 pays d'Afrique de l'Est.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les mesures drastiques se multiplient dans le monde pour combattre la propagation du nouveau coronavirus. Le Japon a décidé de fermer ses écoles et l'Arabie Saoudite d'arrêter d'accueillir les pèlerins à la Mecque, alors que l'épidémie s'étend désormais bien au-delà de la Chine, comme en Corée du Sud, en Iran et en Italie. Dernier pays en date, les Pays-Bas, qui ont annoncé le cas d'un patient qui s'était rendu en Italie. Ici, aux États-Unis, les autorités californiennes suivent quelque 8400 personnes pour s'assurer qu'elles ne sont pas porteuses du nouveau coronavirus, tout en cherchant l'origine de la contamination d'une personne qui a contracté la maladie sans voyager dans une zone à risque.
En Afrique, les experts s'interrogent, eux, sur le très faible nombre de cas détectés sur le continent. À ce jour, seules 3 personnes ont été officiellement contaminées par la maladie. Une en Égypte, une en Algérie et une autre au Nigeria, un Italien arrivé de Milan, pour aucun décès. Le point avec Jean-Roger Bion.
Malgré de nombreuses alertes, l'épidémie ne semble pas jusque-là se développer significativement sur le continent. La semaine dernière, l'OMS a même averti que le continent était mal préparé pour faire face à l'épidémie. L'épidémie en Afrique s'apparente à une goutte d'eau dans l'océan des 80 000 cas et 2 800 morts recensés dans une cinquantaine de pays, pour l'essentiel en Chine, où le premier foyer de l'épidémie est apparu dans la ville de Wuhan, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les spécialistes écartent toutefois le risque d'erreur de détection massive, mais s'il y avait des cas massifs en Afrique, je pense qu'on le saurait, car l'OMS est en alerte et beaucoup de gens sont très attentifs, estime le docteur Amadou Alpha Sall, patron de l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal. D'ailleurs, le nombre de pays africains disposant de laboratoires capables d'identifier le COVID-19 est passé en quelques semaines de 2 en Afrique du Sud et au Sénégal à 29, se félicite le docteur Michel Yao, en charge des plans d'urgence pour l'OMS à Brazzaville au Congo. Un point faible persiste, souligne toutefois le docteur Yao, la capacité à contenir l'épidémie et à traiter ses victimes.
Le gouvernement afghan a envoyé à Doha une délégation de 6 personnes pour une première prise de contact avec les talibans, a déclaré jeudi à l'AFP le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, un organisme gouvernemental. Une cérémonie de signature d'un accord historique entre Washington et les insurgés doit se dérouler samedi à Doha, si la trêve partielle en cours depuis 6 jours en Afghanistan est respectée. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, le ministère de la promotion des petites et moyennes entreprises, en collaboration avec l'Agence de coopération internationale allemande, a lancé hier le programme SI Jobs, qui espère créer 2250 emplois en assurant la formation de 500 PME et de 200 TPE, c'est-à-dire les très petites entreprises. Ce programme de formation durera 2 ans et coûtera plus de 11 milliards de francs CFA. En Guinée, la BADEA, l'Institut financier arabe, va injecter 37,5 millions de dollars dans l'agriculture et les infrastructures. Elle a signé avec le gouvernement guinéen 2 accords de prêt et 1 accord de don en faveur de 2 projets d'investissement public et 1 projet d'assistance technique, dont le projet de développement d'une zone industrielle à Fandjé. Le FMI et la Banque mondiale ont développé des plans d'urgence avec financement immédiat, prêt à être déployé pour venir en aide aux pays qui ne parviendraient pas à faire face à une épidémie du nouveau coronavirus. Pour le moment, aucun pays n'en a fait la demande. Nous avons des instruments de financement rapide, de facilité de crédit rapide pour soutenir les pays en cas d'épidémie ou de désastre naturel, a détaillé Jerry Rice, le porte-parole du FMI, tout en rappelant ce qui avait été mis en place lors de l'épidémie Ebola.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cyclisme, 2e victoire d'étape hier pour Jonathan Valencia autour du Rwanda.
Oui, le Colombien s'est imposé en 2h08 19 secondes sur la 5e étape courue entre Rubavu et Musanze, 84 km. Il a devancé au sprint le Français Romain Cardis et l'Érythréen Nathanael Tesfazion. C'est sa 2e victoire d'étape sur le Tour. Jonathan Valencia avait déjà remporté la 3e étape mardi. Au classement général, Tesfazion reste en jaune avec 2 minutes 11 secondes d'avance sur le Rwandais Moïse Mugisha et 3 minutes 22 secondes d'avance sur le Sud-Africain Kent Mine. Place à la 6e étape aujourd'hui entre Musanze et Muanga, 127,3 km.
Le Bayer Leverkusen file en 8e de la Ligue Europa.
Le club allemand a dominé Porto 3 buts à 1 pour le compte du match. Retour des 16e de finale. Vainqueur 2 buts à 1 à l'aller, le Bayer Leverkusen se qualifie en 8e tout comme l'AS Rome. Les Italiens sont allés chercher un nul 1-1 sur le terrain de la Gantoise, synonyme de qualification. Les Autrichiens de Linz se sont aussi hissés en 8e de finale de la Ligue Europa pour la première fois de leur histoire en battant l'AS Alkmaar 2 buts à 0. L'Espagnol Barcelone a été éliminé par les Anglais de Wolverhampton et les Suédois de Malmö ont été sortis par les Allemands de Wolfsburg. Le tirage au sort des 8e de finale aura lieu aujourd'hui à Nyon en Suisse.
Deschamps et Cantona règlent leur compte au tribunal aujourd'hui.
Oui, le sélectionneur des Bleus accuse l'ancien roi du Manchester United de l'avoir diffamé en agitant la question des origines pour expliquer les mises à l'écart de Karim Benzema et Ben Arfa avant l'Euro 2016. Une chose est sûre, Benzema et Hatem Ben Arfa, ce sont les 2 meilleurs joueurs en France et ils ne joueront pas à l'Euro. Ce qui est certain également, c'est que leurs origines sont nord-africaines. Donc oui, le débat est ouvert, avait déclaré Eric Cantona dans le quotidien britannique The Guardian le 26 mai 2016.
Coup dur pour Joel Embiid et Philadelphie.
Le Camerounais s'est fait une entorse à l'épaule gauche contre Cleveland. Un coup suffisamment dur pour que les Sixers perdent pied chez l'avant-dernier de la conférence Est, 108 à 94. Sans sa star qui venait de battre son record de points en carrière, 49, lundi contre Atlanta, les Sixers ont cruellement manqué d'atouts offensivement et ont manqué l'occasion de recoller à la 4e place, toujours occupée par Miami. La star des Lakers, LeBron James, souffre également d'une blessure. Aucun détail n'a été dévoilé quant à la nature de la blessure de James, qui reste sur une performance de 40 points inscrits lors de la victoire contre la Nouvelle-Orléans, 118 à 109 mardi. On reste en NBA avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Les LA Lakers ont battu Golden State Warriors 116 à 86, aucune surprise là. Philadelphie et New York 115 à 106, Indiana et Portland 106 à 100, Oklahoma City et Sacramento 112 à 108.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'ambassade des États-Unis à Lomé s'est prononcée sur l'élection présidentielle au Togo. Selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante, Faure Gnassingbé a été réélu dès le premier tour avec plus de 72% des suffrages. L'opposant Agbeyome Kodjo, arrivé en seconde position, a saisi la Cour constitutionnelle pour contester ces résultats. L'ambassade américaine suggère au gouvernement togolais de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Pour une réaction, Idriss Fall a joint Christian Trimois, ministre des Droits humains chargé des relations avec les institutions de la République.
Nous comprenons la déception de l'ambassadeur des États-Unis à Lomé d'avoir vu une organisation de la société civile qu'il soutenait en violation des lois togolaises voir son accréditation retirée. Mais d'autre part, nous regrettons que l'ambassadeur ait jugé nécessaire de faire de l'ingérence contre toute convenance diplomatique et en violation des lois togolaises dans le processus électoral togolais en se faisant le porte-parole des revendications d'une des parties aux élections. Mais toutefois, le gouvernement togolais est ouvert dans le cadre d'une amélioration de ses lois électorales et dans le cadre de la consolidation de sa démocratie à toutes les suggestions qui sont faites par les États amis. Et à ce titre, naturellement, nous réfléchirons aux propositions qui ont été faites dans le cadre de l'amélioration de nos lois pour le futur.
Mais pas pour le présent. Donc, il n'est pas question d'envisager une publication des résultats bureau de vote par bureau de vote.
Mais cette proposition faite par l'ambassadeur des États-Unis, d'abord, est inopportune parce qu'elle intervient trop tard. La CENI a déjà proclamé les résultats provisoires. La deuxième, c'est que c'est une disposition qui n'est pas prévue par les lois électorales togolaises. Nous en avions déjà longuement discuté. Il est au courant de cela puisqu'il fait partie du G5 à Lomé, donc du groupe des 5 États qui accompagnent le processus électoral togolais. Et donc, il connaît bien les positions là-dessus. Donc, pour ce processus-ci, on ne pourra pas le faire le contentieux devant la Cour constitutionnelle qui doit proclamer les résultats définitifs. Il me semble que nous sommes en bout de procédure électorale et qu'on ne peut pas, dans ce cadre-là, commencer à remettre en cause les procédures électorales prévues par les lois togolaises.
L'ambassade a exprimé sa déception par rapport à l'annulation de l'accréditation de certaines organisations de la société civile qui devaient observer les élections.
Oui, l'ambassadeur regrette principalement le retrait d'accréditation à la concertation nationale de la société civile togolaise qu'il soutenait lui-même, et notamment qu'il a fait appuyer par des experts du NDA qui, eux, n'étaient pas accrédités. Et donc, naturellement, la violation des lois togolaises emporte retrait des accréditations. La concertation nationale de la société civile connaît ces principes-là et vous verrez que d'ailleurs, elle n'en a pas protesté fortement.
Qu'est-ce que vous reprochez au NDI, le National Democratic
Institute? Nous reprochons rien au NDI. Nous reprochons à la concertation nationale de la société civile qui a sollicité l'accréditation pour être observateur de n'avoir pas donné les bonnes informations qu'elle détenait, d'avoir introduit des experts du NDI dans le processus sans demander leur accréditation et ensuite d'avoir introduit du matériel pour compiler et publier les résultats, ce qui est contraire au loi togolaise. Les observateurs électoraux n'ont pas vocation à compiler des résultats ni à les publier. Il n'y a que l'instance chargée de l'organisation, c'est la Commission électorale nationale togolaise, qui organise et supervise les élections et publie les résultats conformément aux lois togolaises.
Christian Trimois, ministre des Droits humains, chargé des relations avec les institutions de la République du Togo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Tchad, la famille et les compagnons de lutte d'un responsable d'une ONG de défense des droits de l'homme, enlevé et détenu au secret depuis plus d'un mois, sont toujours sans nouvelles de lui. Une situation qui inquiète la société civile tchadienne et les organisations internationales de défense des droits fondamentaux. De N'Djamena, notre correspondant André Kodmadjingar.
Pour avoir publié sur sa page Facebook un message textuel et audio sur la santé du président Déby, Paradine Berde Itargueo, président de l'Organisation tchadienne des droits humains, est derrière les barreaux depuis plus d'un mois. Qualifiant son acte de cybercriminalité par les autorités de N'Djamena, il a été arrêté chez lui le 24 janvier dernier par des hommes armés et masqués et conduit à la direction de l'Agence nationale de sécurité ANS. Depuis lors, sa famille et ses avocats n'ont pas pu entrer en contact avec lui. La société civile tchadienne qualifie sa détention d'illégal et arbitraire. Mahamad Nouri Bedou est le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains.
Non seulement son arrestation est arbitraire et illégale parce qu'il n'y avait pas de mandat, sa détention l'est tout autant que nous avions demandé sa libération immédiate parce qu'il n'y avait pas de raison valable qui nécessite une arrestation. Il avait simplement sur sa page Facebook fait allusion à la maladie du chef de l'État qui en fait regarde tous les Tchadiens.
Le collectif des associations pour la défense des droits de l'homme exige sa libération inconditionnelle et le transfert de son dossier aux autorités judiciaires pour compétence si des charges pèsent contre lui. Pour Jimmy Arabi, ministre de la Justice, en dehors de son message posté sur sa page Facebook, Paradine Berde Itargueo, aux proches du pouvoir de N'Djamena, mène des actions parallèles qui menacent l'ordre public.
C'est une arrestation en bonne et due forme qui est supervisée par le procureur de la République. C'est une personne qui fait des activités subversives par l'intermédiaire des réseaux sociaux et il est du devoir de l'État d'y mettre fin à ses pratiques. C'est pour ça que cette personne a été arrêtée pour une enquête sur la cybercriminalité.
Le collectif des avocats de ces défenseurs des droits de l'homme dénonce également la procédure dans l'arrestation et la détention de leurs clients. Max Loalngar, par ailleurs président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, fait partie du collectif.
Quand les gens s'introduisent chez vous et en veulent à votre vie et à celle de vos familles, c'est inadmissible. Il y a vraiment à craindre pour la sécurité des populations. Si c'est une interpellation correcte, ils auraient pu venir à visage découvert. C'est fait est gravissime et il convient d'interpeller le gouvernement et les autorités afin qu'ils soient systématiquement, tout simplement libérés.
Amnesty International a, dans une correspondance adressée au président Déby, déclaré que Paradine Berde Itargueo pourrait être en danger et exige qu'il ne soit soumis à aucun acte de torture ou mauvais traitement. L'organisation rappelle que la durée maximale de garde à vue de 4 jours selon le code de procédure pénale tchadien est dépassée et demande sa libération immédiate et sans condition. André Kodmadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Cameroun, la peur du nouveau coronavirus est sur toutes les lèvres, tandis que son impact économique commence aussi à se faire sentir dans certains secteurs d'activité qui dépendent des importations en provenance de Chine. Reportage à Yaoundé de notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Jean, Christophe et Jimmy sont vendeurs de motos au lieu dit Moto Aurore à Yaoundé. En cet après-midi, les trois amis vendent la marque de moto Senke, importée depuis la Chine. Jean ne cache pas l'impact économique du coronavirus sur leur entreprise.
Depuis qu'il y a ce fameux virus en Chine, nous vivons une vie d'enfer parce que sur le plan des motos, il n'y a plus la marchandise. Ou lorsqu'il y a même le peu de marchandises qui est un peu stocké, les prix augmentent. Si d'ici 2 mois ça continue, on va partir au chômage.
Mais déjà, les prix de moto ont connu une légère augmentation.
Bon, les prix, on quitte de 450 000 à 480 000 une moto déjà. Nous-mêmes, nous souffrons parce qu'on n'arrive plus à gérer les deux bouts. Parce que l'importateur vous dit ceci, le détaillant vous dit ceci, il faut payer les employés, il n'y a plus d'argent pour payer les employés.
Le marché central de Yaoundé, l'un des plus fréquentés de la capitale. Ici, les boutiques tenues par les Chinois et les produits de la Chine abondent. Jean-Claude vend les jeans, les polos achetés de Chine. Son activité subit aussi un coup.
Une semaine avant que cette histoire n'arrive, on était déjà, notre gens étaient sur les lieux. Apparemment, même les marchandises qu'il a eu achetées ne sont pas encore arrivées parce que les frontières sont bloquées. Déjà que tu ne peux pas satisfaire le client, comment la fête va tourner?
Alayette importe de Chine, les vêtements pour bébés occupent tout un bloc du marché central de Yaoundé. Marie-Jeanne faisait fortune dans l'affaire, mais depuis un certain temps, le coronavirus a grippé le business.
Il y a un très grand impact parce que présentement, on ne peut plus aller faire les achats en Chine pour le moment. Et ce qui fait qu'on ne peut plus avoir des marchandises, puisque nous faisons dans la liette et le prêt-à-porter. Et on ne peut qu'aller maintenant à Douala s'approvisionner.
Dans les rues de Yaoundé, les ravages du coronavirus font déjà frémir certains Camerounais.
Nous ne serons pas fiers qu'elle entre dans notre pays. Nous en avons d'abord plusieurs. C'est une chose qui fait vraiment peur vu le taux de mortalité.
Aucun cas de coronavirus n'a été détecté au Cameroun. Cependant, un dispositif de dépistage d'éventuels cas existe déjà dans les aéroports du pays. Yaoundé, Emmanuel Julunta, VOA Afrique.
À New York, pour la première fois au Met Museum, le Sahel est mis à l'honneur. Une exposition inédite retrace plus d'un millénaire d'histoire aux rives du Sahara. L'exposition révèle au public que le Sahel a été le berceau d'empires puissants, d'institutions politiques influentes et de routes commerciales qui ont forgé les échanges mondiaux. Lily Dico, notre correspondante à New York, est allée voir l'exposition.
Les empires du Ghana, du Mali, les Songhaï et les Bambara ont laissé une culture artistique extrêmement riche dans la région du Sahel. Du textile aux statuettes équestres, en passant par les confections en or et en argile, pour la première fois, une collection de plus de 180 objets met en lumière l'héritage visuel d'une région où la tradition orale dominait. Alissa Lagama, conservatrice au Met, nous parle de l'importance de cette exposition unique en son genre.
Le Sahel a une histoire profonde qui a fait l'objet de nombreux écrits rédigés par des millions d'historiens à travers les générations. Ils ont fait le récit d'une histoire incroyablement importante, mais à ce jour, elle n'a jamais été fusionnée avec la culture visuelle qui a été produite au cours d'un millénaire. Je voulais donc essayer de donner vie à cette histoire à travers les œuvres d'art originales qui ont survécu le preuve du temps dans la région.
Mohamed, un doctorant sénégalais de l'université Cheikh Anta Diop, est sur place dans le cadre d'un programme d'échange de 4 mois focalisé sur cette exposition. Son objet préféré de toute la collection est un pectoral en or originaire du Sénégal, un véritable trésor national. Il nous explique la place prépondérante de l'or dans l'histoire du Sahel.
L'or, on peut carrément dire que c'est un des éléments fondamentaux qui ont fait l'histoire de l'Afrique. Parce que dans les grandes phases de l'histoire de l'Afrique, on voit souvent l'histoire des empires revenir tout le temps. Et les sources, donc à partir desquelles on apprend donc l'histoire de ces empires-là, il y a les sources arabes qui reviennent. Et dans ces sources arabes-là, il y a toujours une répétition de la présence de l'or, de l'importance de l'or, donc à tous les niveaux de la société. Juste l'exemple de Mansa Moussa, il y a une carte qui se trouve dans la galerie. C'est à partir donc de cette carte-là qu'on a vu l'image de Tanka Moussa tenir une boule en or comme ça, avec sa couronne et son sceptre, donc pratiquement décoré d'or.
À travers ces différents objets, dont la plupart datent de l'Empire du Mali, on assiste aux étapes transformatrices du Sahel, telles que l'ascension et la chute des dynasties et l'arrivée de l'islam qui est visible dans l'évolution des tenues vestimentaires et des manuscrits en arabe. Pour Lindsay Brown, le sentiment le plus manifeste de cette exposition est la spiritualité à travers l'art.
Pour moi, cela représente une excursion transcendantale dans un monde spirituel à travers les images et le son. Je pense bien que cela fait que nous essayons de voir. De vivre. C'est un saut du matériel au spirituel. La façon dont cela est présenté me plaît beaucoup.
Selon Wendy Nelson, cette exposition est une découverte entière, puisque c'est la première fois qu'elle entend parler du Sahel.
Je pense que c'est incroyable. Il y a toutes sortes de figurines et d'objets différents que je n'ai jamais vus auparavant et ils semblent provenir de musées du monde entier. Je ne connaissais rien à l'art de cette région d'Afrique et c'est vraiment extraordinaire. J'aimerais y aller et voir d'où cela vient. Maintenant que j'ai vu à quoi cet art ressemble, c'est tout simplement merveilleux.
Au-delà de la spiritualité et de l'émerveillement, c'est l'authenticité de ce voyage ouest-africain en plein cœur de New York qui rend cette exposition sur le Sahel à la fois singulière et majestueuse. Dilédico, VOA Afrique, New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Tony Pollack. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.